Enregistrement numéro 16. Document 1.
Le prix Nobel de la paix a été décerné cette année à Mohamed Younous, l'inventeur du microcrédit. Voici l'occasion de faire le point sur ce système avec Sophie Bessis, directrice de recherche à l'IRIS.
Comment fonctionne aujourd'hui le microcrédit ?
Alors le microcrédit, c'est quelque chose qui a été inventé effectivement par le dernier prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, au Bangladesh. Et il s'agit de prêter des sommes extrêmement modestes aux pauvres, pour prendre ce terme générique qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Les sommes peuvent être extrêmement modestes, ça peut être 5 euros, 10 euros, 20 euros, et avec lesquelles il est possible, disons, d'élaborer des stratégies de survie pour sortir de la pauvreté. Le microcrédit a commencé au Bangladesh avec la création de la Grameen Bank par Mohamed Younous, et aujourd'hui c'est une des formes les plus répandues dans le monde d'aide, entre guillemets, à la sortie de la très grande pauvreté. C'est-à-dire que cette expérience de microcrédit bangladéchi a fait école aujourd'hui partout dans le monde, en Afrique subsaharienne notamment, où la grande pauvreté est très importante. Donc ce petit crédit est remboursé à une échéance assez rapide et réservé à des gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder au crédit bancaire parce qu'ils ne possèdent aucune garantie qui est demandée par le crédit bancaire classique, et lequel crédit bancaire classique évidemment ne prête pas des sommes aussi modestes. Et pour remplacer, disons, la garantie classique, eh bien, en général, dans ce type de microcrédit, le prêteur, c'est-à-dire l'organisme prêteur, l'ONG, etc., demande une garantie solidaire, c'est-à-dire que la communauté, la famille, le groupe doit se substituer à l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Donc voilà quelle est la solution, disons, au fait qu'il n'y a pas de garantie matérielle.
Quel bilan on peut tirer aujourd'hui de ce développement du microcrédit dans le monde ? Est-ce que c'est une solution qui est réservée aux pays en développement, ou est-ce qu'on assiste dans les pays du Nord à un développement de ce type de prêt ?
Première approche, bilan très positif, dans la mesure où effectivement le microcrédit a pu servir à la création de groupements productifs, à la sortie de la très grande pauvreté, etc. Mais enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement controversé, le microcrédit aujourd'hui. D'abord parce que beaucoup disent qu'il ne s'agit pas d'un instrument de développement, mais un instrument de survie. En réalité, ça permet de sortir de la très grande pauvreté en utilisant des petits commerces minuscules, etc., de planter 3 aubergines et 4 tomates, d'acheter des semences, mais que le microcrédit ne permet pas d'accéder à l'étape supérieure, qui est l'étape du développement, l'étape de l'accumulation, en réalité. Ça, c'est une critique très importante qui a été faite. Et deuxième critique qui a été faite, il s'agit d'une solution technique, disons, à la sortie de la pauvreté, qui peut être tout à fait pertinente et qui peut être totalement utile dans un certain nombre de cas, mais les grands bailleurs de fonds aujourd'hui estiment et font comme si une solution technique pouvait remplacer le problème politique que constitue la pauvreté au niveau mondial. Pour l'instant, si vous voulez, 99% de ce microcrédit a lieu dans les pays en développement. Mais il y a quelques petites expériences intéressantes dans un certain nombre de pays du Nord. Si je ne me trompe pas, aux États-Unis, mais même en France aussi, de développer des systèmes de microcrédit à l'intention des plus pauvres également.
Document 2.
Le divan de Monsieur Ho. Histoire du premier psychanalyste chinois. Un feuilleton documentaire de Marie-Hélène Bernard. Premier épisode, où l'on retourne avec Datong Rouault sur les lieux de son enfance.
Document 3.
En Amérique du Nord, les gens mangent beaucoup parce que les portions sont plus grosses. Ils mangent plus parce que la cuillère qu'ils utilisent est plus grande, le verre plus large, le bol plus gros, ou parce que les plats de service sont restés sur la table. Le docteur Jean-Patrice Baillargeon est endocrinologue à l'Université de Sherbrooke.
La satiété, c'est pas quelque chose qui est bien fixé dans la tête des individus. Ils savent pas exactement quand est-ce arrêté. Donc, plus ils ont de la nourriture, plus ils vont manger.
Une des études qu'il confirme, c'est celle de Brian Wansick, chercheur au laboratoire alimentaire de l'Université Cornell, dans l'État de New York. Elle a d'ailleurs incité des compagnies alimentaires à proposer de plus petites portions, de 100 calories chacune. Mais pour combattre l'obésité et le diabète, encore faut-il bouger. Et bien souvent, nos villes nous en empêchent. Avi Friedman est professeur d'urbanisme à l'Université McGill.
Vous allez dans tous les quartiers, nouveaux quartiers de Toronto, vous regardez qu'il y a toujours le même type de banlieue. Ça veut dire, vous êtes très loin d'une place à jouer, il n'y a pas possibilité d'acheter dans une distance de marche, à aller acheter les pains et les journaux.
Il reproche au zonage d'interdire les commerces dans les zones résidentielles qui pourtant favoriseraient la mobilité. Mais M. Friedman estime qu'il faudra encore une génération avant que le zonage ne le permette. Anne Quirion, Radio-Canada, Toronto.
Document 4.
Bienvenue pour notre rendez-vous scientifique hebdomadaire, avec cette semaine une question qui touche également à l'univers des médias. Le documentaire scientifique doit-il obligatoirement être objectif? La science était jusqu'ici peu présente, aussi bien sur le petit que sur le grand écran. Cependant, depuis quelques années, de nombreuses chaînes accordent une place de plus en plus importante aux documentaires traitant de sujets scientifiques. On a pu observer de véritables succès d'audience avec des productions sur les origines de l'homme comme Le Temps des mammouths ou encore L'Odyssée de l'Homo sapiens de Jacques Humery. Au cinéma également, les films animaliers attirent de plus en plus de monde. Le film de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, sorti en janvier 2005, a ainsi connu un succès mondial avec près de 2 millions d'entrées en France et plus de 8 millions aux États-Unis. La science s'ouvre donc au grand public. Mais à quel prix? Quelques-unes de ces productions ont été vivement critiquées par certains spécialistes. La mise en scène de connaissances scientifiques ne va pas sans poser problème. En effet, il est parfois tentant de transformer légèrement la réalité scientifique afin de rendre le scénario plus marquant, les explications plus faciles à comprendre ou les scènes plus spectaculaires. Et si certains documentaires se caractérisent par leur sérieux, d'autres frôlent en revanche la caricature de la réalité scientifique. Le docufiction, genre télévisuel hybride très en vogue, qui mêle documents d'archives et reconstitutions fictives, aurait tout particulièrement tendance à favoriser cette dérive. La science semble alors utilisée comme prétexte pour produire des films hauts en spectacle avec de gros budgets, et ce, malgré la caution de chercheurs renommés. Le résultat peut laisser parfois songeur. Cette volonté de captiver l'attention du plus large public, et en particulier des jeunes, peut conduire à une vulgarisation dangereuse avec son lot d'imprécisions, voire de déformations. Dans certains cas, ces productions nuisent à l'image de la science plus qu'elles ne la servent. Le Temps des mammouths ou encore L'Odyssée de l'Homo sapiens regorge par exemple de simplifications utiles au niveau pédagogique, mais très contestables du point de vue scientifique. Un autre documentaire intitulé « Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité » de Thomas Nagati a également provoqué une levée de boucliers chez bon nombre de spectateurs et de spécialistes qui ont vu dans cette réalisation une défense indirecte de théories néo-créationnistes. Le but premier du documentaire scientifique, traité ou non sous la forme d'un docufiction, est-il de vulgariser les découvertes scientifiques ou s'agit-il au contraire, pour le réalisateur, de créer une œuvre personnelle qui peut alors s'éloigner quelque peu d'une réalité scientifique souvent complexe et contradictoire? Comment, dans ce cas, le public de profanes à qui s'adressent ces productions peut-il faire la part entre des faits validés par la communauté scientifique et la création cinématographique? À vouloir trop simplifier la science pour la rendre accessible, ne la déforme-t-on pas? C'est donc de ces questions que nous allons aujourd'hui débattre dans notre émission avec nos invités Jean-Pierre Tillier, Hervé Gaïc et Thomas Nagati. Jean-Pierre Tillier est documentariste, directeur de la société de production Eurofilm et président du Festival du documentaire scientifique Paris Science, qui se déroule actuellement dans le cadre de la Fête de la Science au Jardin des Plantes au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Hervé Gaillic est également parmi nous. Il est responsable des documentaires scientifiques, médicaux et historiques sur France 4. Et enfin, Thomas Nagati est documentariste, réalisateur, producteur à Science Movie et auteur d'Homo Sapiens, une brève histoire de l'humanité dont nous avons déjà parlé, mais aussi plus récemment d'un film remarqué intitulé Tchernobyl ou les oubliés de la catastrophe nucléaire.
Document 5.
D'accord, pas d'accord, pour, contre, on ne sait pas. D'accord, pas d'accord, la radio dans tous ses débats. Alors, sujet du jour, le MQB. MQB pour Musée du Quai Branly. Un an après son ouverture, le Quai Branly, dernier né des musées parisiens, dépassait les 1,5 million de visiteurs. Alors comment rester indifférent face à ce nouveau temple à l'architecture monumentale destiné à accueillir les arts et civilisations de peuples dont la culture n'a pas l'Occident en partage ? L'un accable, l'autre défend le fruit de ce projet présidentiel. Donc avec nous aujourd'hui sur les ondes de RFC, Valérie Dessalles, archéologue, bonjour, et Antoine Garcia, journaliste.